boys lying on the ground, trapped under the sand. I couldn't fight, I couldn't stand. What is the breakout? It's always hard to realize that we are molded to be blind. Everything was falling and I couldn't sleep. Was time to break down all I had built. Follow the lights, forget the rest. Throw away the reasons I couldn't face. Turn all the shit into bright gold. Open the gates and let it flow.
Kiev, 9h à Paris.
RFI Matin.
Et tout de suite, c'est le journal avec Nathalie Miché. À la une, c'est milliers de pompiers mobilisés en Europe contre les incendies.
Avec de nouveaux feux en Grèce et en Turquie, tandis qu'en France, la baisse des températures fait espérer une fixation du feu dans les prochains jours en Gironde. Mais les flammes couvent toujours et nous serons sur le terrain pour vivre le combat contre le feu aux côtés des pompiers. Nous serons également avec l'une de nos envoyées spéciaux tout juste rentrée de Gironde. On parlera notamment du coût de la reconstruction, alors qu'une réunion commence à l'instant au ministère de l'économie pour parler des conséquences des incendies.
Dans ce journal également, les violences en Cisjordanie.
La violence des colons armés s'aggrave d'après le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme et vous entendrez un agriculteur palestinien qui a été chassé de sa maison après plusieurs semaines de harcèlement et de menaces. En Ukraine, une nuit de bombardements intenses menés par la Russie. Le bilan est d'au moins 8 morts. Et puis il y aura le football avec la réaction de la CAF à la proposition controversée de Gianni Infantino, le patron de la FIFA. La Confédération africaine de football ne dit pas non à l'ouverture de la Coupe du Monde à des investisseurs privés.
L'Est de l'Europe, à son tour frappé par d'importants feux de forêt.
Plusieurs régions touchées en Grèce, où deux pompiers ont péri en Crète en luttant contre les flammes. 90 départs de feux recensés en une journée en Turquie, notamment dans des zones touristiques. L'épicentre des incendies semble donc se déplacer, avec une amélioration en Espagne et en France. La France, où le gouvernement organise en ce moment une réunion avec les entreprises qui subissent de plein fouet les conséquences des incendies. Il est question aussi, dans les prochaines semaines, de mettre en place une filière industrielle anti-incendie. L'objectif, c'est de tirer les enseignements, notamment du feu toujours actif en Gironde, dans le sud-ouest. Après avoir parcouru 42 000 hectares, c'est le pire incendie en France depuis 1949. Et si le brasier reste stabilisé, eh bien, des milliers de pompiers luttent encore contre les flammes. Notre envoyé spécial, Nicolas Roca, les a accompagnés sur le terrain.
5 bénévoles sautent de leur pick-up armé de pelles et de seaux pour courir vers une reprise de feu en lisière de forêt. Les mêmes scènes se reproduisent quelques minutes plus tard sous le regard des pompiers qui observent les Canadair et les Air Tractor sillonner le ciel avant de larguer de l'eau au milieu de la forêt.
On a un officier aéro qui, lui, en fait, coordonne l'action des moyens aériens pour leur signifier que le personnel est mis en sécurité et qu'ils ont autorisation de largage.
Comme l'explique le capitaine Wilfried Schneider, impossible pour les pompiers d'être proches des flammes lorsque sont déversés des milliers de litres d'eau. Il était chef de secteur sur la zone samedi dernier.
Nous avons été confrontés à une progression du feu pendant la nuit dans ces parcelles. Nous avons réussi à stopper la progression du feu avant cette départementale.
Une route sépare deux mondes, d'un côté des pins calcinés et de l'autre une zone encore épargnée à protéger.
Et l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que typiquement une parcelle comme celle-ci qui a brûlé n'est pas une saute de feu qui part dans une parcelle de non brûlée.
Juste de l'autre côté.
Et juste derrière, vous avez des milliers d'hectares.
Des hectares qui mènent à la métropole bordelaise. Plus de 2000 pompiers français et européens sont à pied d'œuvre avec un objectif, commandant Mathieu Jomain.
C'est un combat contre un poids lourd. Ces derniers jours, on a mis Mike Tyson à genoux à terre. Et notre objectif, c'est qu'il mette le deuxième. C'est-à-dire, là, il n'avance plus. On veut vraiment qu'il soit fixé, le noyer par la suite. Mais là, nous rentrerons dans des opérations de très, très longue durée.
Nicolas Roca, Bordeaux, RFI.
Et vous aussi, Pauline Fragonas, vous étiez sur le terrain en Gironde. Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez même la première à arriver sur place pour RFI après le départ de cet incendie le 22 juillet. Vous avez passé plusieurs jours dans ce département du sud-ouest de la France, que d'ailleurs vous connaissez très bien. Pauline, qu'est-ce que vous retenez de cette quasi-semaine entière au plus près des flammes ?
Alors la première image qui me vient, Nathalie, c'est cette longue file de voitures à Andernos, progressivement submergée par la fumée. Les habitants étaient en train d'être évacués et tout le monde essayait de quitter la ville en même temps. On est resté bloqué plus d'une heure dans les bouchons et on sentait clairement que le feu était en train de s'approcher. L'angoisse, clairement, à ce moment-là, tout le monde l'a ressenti. 220 000 évacuations en moins d'une semaine, c'est du jamais vu en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens aussi au Cap Ferré, il n'y a qu'une seule route pour quitter la Presqu'île et des files de voitures s'étendaient sur plusieurs kilomètres. J'ai vu arriver des familles avec quelques sacs seulement, parfois leurs animaux de compagnie, après avoir quitté leur logement dans l'urgence. Le danger, il venait aussi des fumées chargées en particules, pardon. À un moment, je me suis un petit peu rapprochée des flammes et clairement, on ne voyait pas à 10 mètres. Pendant plusieurs jours, Bordeaux a d'ailleurs été recouvert d'un nuage brun assez épais. J'ai aussi passé du temps dans les centres d'accueil des évacués, au parc des expositions à Bordeaux. Presque chaque jour, un nouveau hall ouvrait pour les accueillir avec littéralement des milliers de lits d'encre alignés.
Alors au-delà de l'urgence qu'on évoquait avec la bataille contre le feu, il y a cette autre bataille, celle de la reconstruction. Nouvelle réunion, on le disait, au ministère de l'économie, c'est ce matin. Il s'agit de répondre aux inquiétudes des secteurs touchés. Concrètement, Pauline, en Gironde, quelles sont les principales conséquences économiques des incendies ?
Alors, on en a des premières qui sont déjà visibles, avec 14 500 entreprises qui sont actuellement à l'arrêt. Au-delà des commerces détruits par les flammes, on a aussi plusieurs axes routiers qui sont fermés, notamment l'autoroute A63, ce qui empêche les livraisons. C'est aussi évidemment un coup de massue pour le tourisme qui représente 7% du PIB de la Gironde, avec des campings qui ont brûlé, des villages vacances qui enregistrent des annulations jusqu'à la fin de l'été, et des saisonniers qui se retrouvent actuellement en chômage partiel. La pollution liée aux fumées pourrait aussi affecter, bien sûr, la production agricole. Dans le sud du département, on a beaucoup d'exploitations légumières qui sont concernées. Et puis, bien sûr, il y a les viticulteurs qui redoutent les effets de la fumée sur la qualité des raisins, sachant que la filière est déjà en crise. Et enfin, Nathalie, il y a bien évidemment la forêt. La Gironde, c'est l'un des principaux producteurs français de pins maritimes. Avec ces incendies, certaines communes perdent une ressource économique qui est essentielle et qui mettra des décennies à se reconstituer.
Pauline Fragonas, merci beaucoup. Je rappelle que cet incendie, le pire en France depuis plus de 70 ans, reste stabilisé ce matin. Et puis en Espagne, là aussi, la situation s'améliore. Tous les habitants qui avaient été évacués dans la région de Madrid peuvent désormais rentrer chez eux.
Et on sera dans un instant, en Espagne, dans une base de loisirs près de Madrid qui a brûlé. Notre envoyé spécial s'est rendu sur place. Le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Nathalie, tire la sonnette d'alarme face à la colonisation israélienne en Cisjordanie.
La violence des colons et l'annexion du territoire palestinien ne font qu'empirer. Message transmis dans un communiqué dans lequel le Haut Commissariat appelle les États à agir contre une occupation qualifiée d'illégale depuis 2024 par la Cour internationale de justice. Mais 2 ans plus tard, les colons israéliens continuent d'attaquer les villages palestiniens. Les affrontements font rage. En une semaine, 8 Palestiniens et 2 soldats israéliens ont été tués. Mahmoud Toubassi est agriculteur palestinien en Cisjordanie et il assure avoir été chassé de chez lui sous la menace des armes.
Les colons nous ont assiégés pendant 3 semaines en occupant une de nos maisons en contrebas sur la route qui mène au village. On est resté sans nourriture. Même les services de l'autorité palestinienne n'ont rien pu faire pour nous apporter à manger. Finalement, ils nous ont coupé l'électricité. Sans nourriture, sans eau, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? À la fin, 2 colons, plus âgés que ceux qui nous harcelaient tous les jours, sont venus nous voir. Ils étaient armés. Ils nous ont dit « Vous avez une heure pour partir. Soit vous sortez d'ici, soit vous mourrez dans la maison. Je demande à la communauté internationale de m'aider à faire sortir ces colons et à retrouver mes terres et ma maison. Je ne veux rien de plus. »
Un témoignage recueilli par Abla Junaidi pour RFI.
Entre l'Iran et les États-Unis, la reprise des hostilités se confirme.
Pour la 2e nuit consécutive, l'armée américaine a procédé à des bombardements, cette fois en territoire iranien, contre des dizaines de sites militaires des gardiens de la Révolution. Les États-Unis qui disent riposter à des tentatives d'attaques iraniennes contre leur propre position dans la région. Justification similaire après les raids menés hier en Irak, en coopération avec l'Arabie Saoudite, contre des groupes armés pro-iraniens. La présidence irakienne a dénoncé une violation flagrante de la souveraineté du pays. Et c'est dans ce contexte qu'une visite du premier ministre irakien est justement programmée pour aujourd'hui à Riyad.
8h09 à Porto Novo, au Bénin, où la cérémonie d'installation du Sénat se tient donc aujourd'hui.
Étape protocolaire dans la capitale avant que la 2e chambre du Parlement n'aille siéger à Cotonou, issue de la révision constitutionnelle de novembre dernier. Sous la présidence à l'époque de Patrice Talon, ce Sénat de 25 membres ne comprend aucun élu. Il s'agit soit de membres de droit, soit de personnalités désignées. Une mouture que dénonce le parti d'opposition béninois, les démocrates, qui accuse Patrice Talon, lui-même sénateur désormais, de vouloir ainsi revenir dans le jeu politique.
Direction l'Ukraine, où Volodymyr Zelensky réclame à nouveau la livraison de missiles antibalistiques.
Il s'agit d'après lui de répondre à la terreur russe pendant la nuit. 74 missiles et plus de 280 drones russes ont visé le territoire ukrainien et le bilan est d'au moins 8 morts. Et tandis que la guerre s'enlise entre l'Ukraine et la Russie, une porte-voix du Kremlin fait désormais l'objet d'un ordre
d'effet. What we imagined and what we became, we'll keep on separate and you'll keep your name. You keep your your is a place that we both know. It lives in our hearts, we built it together. Fear is a manic hooper, love is unchained. So we'll keep on separate and you keep your hands. You keep your
yeah. ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif.
Eh bien, on va déjà habituer nos auditeurs à ces bruits qu'ils vont entendre.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
And watch a movie that is way too groovy. Then blend up a big cup of baby
bacon up in a bacon suit. Let me lick the litter of your newborn puppies and suck a little milk from the teat of the mummy. Yeah, the weirder the better, I'm here for the leather. Come nearer together and let me smell the sweat, cause I wanna get I'm on Easter Island and it's hot.
Drown me
in cerebellum juice in a pot.
Down it.
20 ladies dressed up as Spock, all frowning. I'm pounding out trans doing shots.
Rowdy,
howdy folks.
Fix me up something better like a sweat wine spritzer, a mile high lover. Shimmy up the biggest two.
You're the bigger the better.
Slippy side down in town. I'm with me man Boris Becker at the front, facing every pawn with a kettle full of soup.
Yeah,
passion fruit flavor, lovely rolling bubble glue.
Slush him up, run him up, put him in my boot. Yeah,
dress him up as animals and put him in a zoo. Salmonella, salmon and some lemonade stew. Take a little dick, wiggle, turn it into glue. And whip out my dick, giggle, yabba dabba do. What you gonna do?
Choumi, je veux la soupe, les brochettes et les sushis. Elle voulait que des mondes, j'ai ramené la boîte à outils. L'âme de scie, circulaire en guise de frisbee. J'ai l'âme d'un mogwai qui ne se nourrit qu'à faire bibi. Boudingue, j'bourlingue, naviguant sur les eaux de Boudin. Médite, lévite, puis disparaît comme Robert Houdin. J'ai le gourdin comme un gladiateur dans un gonzo amateur autrichien. Inspiré des meilleurs peplums hollywoodiens. J'ai un sous-cœur atteint d'épilepsie, j'viens me trémousser. Tous les vagins sont jaloux, ma main droite, oui, j'me fais mousser. J'ai fait des millions, t'as vu, beauté des milliers de cul. Mais dans les médias, je passe inaperçu comme un dragon de mer. Feuillu, je suis pas novice, mais je ne passe pas comme un stack à novice. En quête de mes deux gifs, je vis de ma tête et des paquets de chips. Je ne porte pas de slibard, mais ça m'horripile. Braguette ouverte, skate en or qui brille.